Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Assemblée générale du groupe TWAXT. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Fabrice Walewski et à Monsieur Raphaël Walewski, gérant. Messieurs, c'est à vous.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, bienvenue à tous, chers actionnaires. Je déclare donc ouverte l'Assemblée générale des actionnaires de TWAXT, réunie à titre ordinaire et extraordinaire, et tenue à huis clos, c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et d'autres personnes ayant le droit d'y assister au siège social. Alors, et bien évidemment, on regrette de devoir tenir encore à huis clos cette Assemblée générale, et nous faisons le vœu de vous revoir tous physiquement le plus rapidement possible, et en tout cas à la prochaine assemblée, ici même à la Défense, donc à notre siège social. Sachez que huis clos signifie aussi que cette AG est retransmise en direct, en audio, et sera enregistrée, et donc vous pourrez la consulter sur notre site internet. Tous les votes ont été faits donc par correspondance, préalablement à l'AG. La brochure que nous allons suivre avec tous les documents se trouve sur notre site internet, qui est donc www.twax.com, rubrique investisseurs, et la sous-rubrique est documents. On peut maintenant donc passer à la constitution du bureau. Il m'incombe en tant que gérant de constituer donc le bureau de l'Assemblée. Je propose de prendre les principaux actionnaires. Donc d'une part SHGP, membre de l'Assemblée ayant accepté de remplir cette fonction, représentée par M. Fabrice Walewski, et d'autre part SHGL, représentée par M. Raphaël Walewski. Je propose également de choisir comme secrétaire Madame Isabelle Schweizer, responsable juridique du groupe. Troisième partie, pour le quorum, je peux vous confirmer donc que le quorum est atteint avec 42,44% des actions représentées, ce qui est donc suffisant pour pouvoir tenir l'AGO. Le minimum est de 20% pour l'AGO et pour l'AGE de 25%. En conséquence, le bureau peut constater que l'Assemblée générale mixte et extraordinaire peuvent se tenir. Page 3 de la présentation, vous voyez ici tout le déroulement de la séance, avec notamment tous les documents. Donc vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de ces documents sur notre site internet, et notamment les publications, les convocations, les comptes sociaux et consolidés, au 31 décembre 2020, le document d'enregistrement universel, les statuts, les rapports des gérants, du conseil de surveillance et des CAC. On va procéder donc au niveau de l'ordre du jour de l'AGO, donc de l'Assemblée générale ordinaire, aux approbations suivantes, donc l'approbation des comptes sociaux et consolidés du 31 décembre 2020. Sera demandé aussi un quitus donné aux membres du conseil de surveillance, aux commissaires aux comptes et aux gérants. On procédera aussi au vote de l'affectation du résultat. Et du vote de toutes les approbations des politiques de rémunération des gérants, membres du conseil de surveillance et mandataires sociaux. Nous pouvons maintenant, nous aurons aussi le plaisir de proposer le renouvellement du mandat d'un de nos membres du conseil de surveillance, qui est Madame Marie Philippi. Et enfin, donc, une délégation de pouvoir au conseil de gérance pour racheter ses propres actions. On y reviendra plus tard dans le cadre de la régulation, enfin de son contrat de liquidité. Au niveau de l'assemblée extraordinaire, les deux principales résolutions sont une modification technique sur la rémunération de la gérance, j'y reviendrai plus tard avec le rapport, et une autorisation pour annuler les actions qui auraient été rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L225-209 du Code de commerce pour une durée de 18 mois. C'est encore une fois le rachat qui est fait dans le cadre du contrat de liquidité. Voilà, je passe la parole maintenant à Raphaël Walewski pour la présentation des comptes.
Bonjour à tous, bonjour chers actionnaires. Donc nous avons cette présentation des comptes et ce slideshow donc, qui est en ligne sur notre site. Et donc je vais démarrer par un résumé en fait de l'année 2020 qui constate une bonne performance opérationnelle et financière. Donc en quelques points, 2020, c'est un retour à la profitabilité avec un résultat net part du groupe à 5,9 millions d'euros. On constate une forte résilience des activités malgré le contexte de pandémie. Nous avons en fait 80% de nos revenus locatifs qui sont récurrents. Nous avons aussi en 2020 renforcé la structure financière du groupe avec l'arrivée d'un partenaire majeur, un fonds d'infrastructure, DIF Capital Partenaire, et ceci au sein de la division RAI. Nous avons aussi finalisé en 2020 deux refinancements d'actifs importants, un de 75 millions de dollars pour la division conteneurs et un de 180 millions d'euros pour la division rail. Et nous avons fini l'année 2020 avec un niveau de trésorerie élevé à 62 millions d'euros et une capacité de financement renforcée qui va donc nous permettre d'investir à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment le résumé et les points clés de 2020. Le métier de Touax, nous sommes toujours donc bien sûr sur nos trois métiers de transport, avec donc de la location opérationnelle et des services associés. Nous existons depuis 1853, donc c'est un groupe ancien. Nous gérons aujourd'hui 1,1 milliard d'actifs. Nous avons environ 250 collaborateurs répartis partout dans le monde. Le groupe est très international puisque 98% du chiffre d'affaires est en dehors de France et nous sommes bien sûr cotés à la Bourse de Paris. Donc c'est vraiment une activité déclinée autour de trois actifs standardisés dans le transport durable, donc les wagons, les barges et les conteneurs, que nous louons sur des contrats longue durée. À retenir, et c'est important, c'est la taille des marchés, ils sont importants. Nous avons 80 milliards de dollars de conteneurs dans le monde. Il existe 15 milliards d'euros de barges fluviales en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et le marché du wagon en Europe s'élève à 50 milliards d'euros. Donc des marchés importants. Ce sont des marchés qui répondent à des logiques de besoins de remplacement et à une logique aussi de développement récurrent. Donc il y a vraiment des besoins de remplacement de flotte âgée et des besoins de développement liés à la croissance. Donc ce sont aussi des matériels qui sont respectueux de l'environnement et qui répondent à la logique des échanges internationaux. Rapidement, en fait, une slide qui reprend un peu nos métiers, qui est très intéressante. Donc, en fait, dans le wagon de fret, nous sommes donc l'un des principaux joueurs, le deuxième en Europe pour les wagons intermodaux. Nous faisons de la location, vente, gestion pour compte de tiers et de la vente. Nous gérons à fin 2020 11 309 plateformes. L'âge moyen du parc est de 21,3 ans en wagon. 312 millions d'euros en propriété, 147 millions d'euros gérés, donc ça c'est toujours le wagon, et donc une contribution à l'EBITDA du groupe à hauteur de 57%. La barge fluviale, donc nous sommes surtout en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, faisons de la location, de la vente, de la gestion pour compte de tiers. Nous gérons 99 barges, 68 millions d'actifs en propriété, 12 millions d'euros gérés pour compte de tiers. L'âge moyen des barges est de 14,3 ans et l'activité contribue à hauteur de 11% de l'EBITDA en 2020. Et l'activité conteneur, donc nous sommes le principal loueur en Europe, le troisième gestionnaire d'actifs conteneurs au monde. Nous faisons de la location-vente, du trading et de la revente, donc trading neuf et revente d'occasion. Nous faisons beaucoup de gestion pour compte de tiers. Nous gérons à fin 2020 382 626 TEU. Nous avons 76 millions d'euros de conteneurs en propriété et 456 millions d'euros de conteneurs gérés pour compte de tiers. Et la flotte a un âge moyen de 10,6 ans et l'activité conteneur contribue à hauteur de 25% à l'EBITDA. Donc ça, c'est la synthèse un peu des activités. Nos clients, on les connaît depuis très longtemps, certains depuis plus de 30 ans. Donc on a une multitude de clients qui sont des opérateurs pour le wagon, des opérateurs de chemin de fer étatiques, des opérateurs de chemin de fer privés, des logisticiens et des industriels. Pour les barges, c'est un peu la même logique, des opérateurs privés, pas d'opérateurs publics, mais des opérateurs privés, beaucoup d'industriels et des logisticiens. Et pour le conteneur maritime, en location, il s'agit principalement de compagnies maritimes conteneurs, mais nos clients en vente de conteneurs sont 2 000 à 3 000 clients aujourd'hui qui qui sont donc des industriels, des utilisateurs en fait de conteneurs, des revendeurs de conteneurs partout dans le monde. Le business model est un business économique résilient en fait, qui est basé sur des contrats de longue durée. Donc en fait, nous avons vraiment cet ADN d'avoir des matériels mobiles et standardisés qui sont de très longue durée de vie, de 30 à 50 ans. Une faible obsolescence sur des matériels très standardisés, ce qui nous permet de générer des contrats longs. On va aujourd'hui sur des contrats jusqu'à 10 ans, voire plus, mais on est de plus en plus à générer des contrats longs. Et donc, ça nous permet d'assurer 80% des revenus locatifs qui sont récurrents. On va passer maintenant, je vais vous lire maintenant les comptes du groupe. Alors, quelques synthèses aussi sur ces comptes. Donc, l'EBITDA est en très nette hausse. Le résultat net est positif après plusieurs années de pertes, et ceci malgré la crise sanitaire. Donc, ainsi, le chiffre d'affaires, lui, est en légère baisse. Le chiffre d'affaires s'élève en 2020 à 163,4 millions d'euros. L'EBITDA est en hausse de 27% à 46,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 54% à 23,3 millions d'euros. Et le résultat net part du groupe passe de moins 2,6 millions à 5,8 millions d'euros positifs. Donc c'est vraiment pour le groupe une validation de l'orientation stratégique. Et donc on constate, c'est vrai, cette résilience du business model malgré le contexte du Covid-19. Alors, l'effet marquant financier en 2020, c'est tout d'abord, en septembre 2020, l'augmentation de capital de Twax Rail, donc notre division Rail, pour 81,9 millions d'euros, avec donc l'arrivée de DIF Capital Partner, qui est l'un des principaux fonds infrastructures indépendants et qui gère 7,5 millions d'euros donc en infrastructure. Donc, cette opération a vraiment permis au groupe Twax de renforcer significativement nos fonds propres. Ensuite, nous avons une autre opération significative en novembre 2020, le rachat partiel de 24,2 millions d'euros de la dette perpétuelle, la TSSDI. Ça, c'est une opération qui, pour nous, nous permet d'optimiser le coût de nos ressources. Et donc, ça a été une opération partielle, puisque notre TSSDI s'élève à 50 millions d'euros. Et donc, après cette opération, donc, elle s'élève à environ 26 millions d'euros. En novembre 2020, nous avons aussi refinancé les actifs de la division conteneur à hauteur de 75 millions de dollars avec une option d'extension à 85 millions de dollars. Et en décembre 2020, nous avons aussi refinancé l'activité rail à hauteur de 180 millions d'euros, dont un green loan intégré dans ce montant. Donc en fait, toutes ces opérations significatives au cours de 2020 nous permettent de renforcer notre position actuelle et d'envisager une accélération de notre développement à l'avenir. Je vais maintenant vous commenter le compte de résultat. Vous avez donc beaucoup d'informations dans le rapport annuel et dans l'URD publié. Ces comptes de résultat, donc je l'ai dit, 163,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, un EBITDA à 46,8 millions d'euros, un résultat opérationnel courant à 23,3 millions d'euros, un résultat net consolidé de l'ensemble à 8,8 millions d'euros et un résultat net part du groupe de 5,8 millions d'euros. L'analyse en fait de l'EBITDA par activité est intéressante. En fait, les quatre activités, y compris l'activité construction modulaire en Afrique, progressent. Donc le wagon de fret en 2020 génère 26,5 millions d'euros d'EBITDA, soit une progression de 15%. La barge fluviale génère 5,2 millions d'EBITDA, soit une progression de 47%. Le conteneur génère 11,6 millions d'euros d'EBITDA, soit une marge de progression de 31%. Et les autres activités, dont principalement donc l'activité construction modulaire en Afrique, génèrent 3,5 millions d'euros d'EBITDA, soit une progression de 138% au total. Donc, comme je le disais, l'EBITDA du groupe s'élève à 46,8 millions d'euros, soit plus 27%. On va maintenant s'atteler à une analyse par activité. Donc pour démarrer, nous allons parler de la division wagon. Donc à ce jour, nous gérons 11 309 plateformes. Ces matériels durent jusqu'à 50 ans. Nous les amortissons en comptabilité sur 36 ans. L'âge moyen de la flotte est donc de 21,3 ans. Le taux d'utilisation moyen en 2020 s'élevait à 84,4%. et la durée moyenne de location en 2020 à 3,7 ans, donc tout cela pour le wagon. Donc comme je l'ai dit, l'EBITDA est en très forte progression à 26,5 millions d'euros. Cela provient d'une hausse des ventes et syndications, d'une hausse des commissions de gestion et d'une baisse des dépenses opérationnelles. Donc on a constaté en fait une baisse du taux d'utilisation depuis la crise Covid, mais qui a été partiellement compensée par une hausse modérée des tarifs locatifs. Donc on reviendra sur les perspectives, mais l'activité repart à la hausse en termes de taux d'utilisation, légèrement à la hausse, mais repart à la hausse en termes de taux d'utilisation. Malgré le Covid, l'activité wagon a constaté peu de défauts de clients, donc les clients ont payé. L'activité barge fluviale, donc 99 barges gérées, c'est des actifs très longs aussi, qui durent jusqu'à 50 ans, amortissement comptable 30 ans, l'âge moyen de la flotte 14,3 ans, le taux moyen d'utilisation en 2020 s'élève à 95,1%, la durée moyenne de location s'élève à 6,1 an. L'EBITDA, comme je le disais, est en forte hausse à 5,2 millions d'euros et résulte principalement donc d'une syndication en fin d'année 2020 et aussi d'une baisse des dépenses opérationnelles. Le secteur a été en fait très peu impacté par la crise Covid, la demande restant essentiellement liée à des projets d'infrastructures, notamment par exemple le chantier du Grand Paris, mais aussi au transport de céréales. Donc on est très positionné sur les marchés de transport de céréales. Le conteneur, donc une division qui gère 382 626 TEU, la durée de vie économique en maritime, c'est 15 ans. Ensuite, le matériel a une deuxième vie en terrestre jusqu'à plus de 20 ans. Nous amortissons ces conteneurs sur 13 ans avec une valeur résiduelle entre 1 000 et 1 400 $. L'âge moyen de la flotte est de 10,6 ans. Le taux moyen d'utilisation en 2020 s'élève à 96,4%. La durée moyenne de location à 7,9 ans. Et les contrats sont très longs. Nous avons 95,9% des matériels qui sont loués sur des contrats de 3 à 7 ans. Donc c'est une très bonne année avec une très forte progression de l'EBITDA. Le point important à noter, c'est le dynamisme des opérations de négoce, des matériels neufs et d'occasion, donc ça en 2020, qui donc ont progressé de plus 53% en termes de chiffre d'affaires. Donc, très bonne contribution des activités de trading et de négoce d'occasion. Voilà pour la partie PNL. Je vais maintenant m'atteler à la partie du bilan, analyse du bilan et des flux de trésorerie. Donc ce bilan simplifié, on constate des fonds propres consolidés de l'ensemble de 147 millions à fin 2020, une dette financière long terme de 230 millions. Et des passifs courants de 84 millions d'euros. Nos fonds propres, c'est le point important, ont progressé significativement et nous avons 62 millions de cash au bilan. Donc quelques chiffres sur le bilan. Les matériels immobilisés sont à hauteur de 308 millions d'euros, soit plus 11 millions d'euros par rapport à 2019. Nous avons peu de goodwill, 5,1 millions de goodwill. Nous voyons arriver donc des droits d'utilisation IFRS 16 pour 14,8 millions d'euros, dont 12,7 millions sont pour la division barge. À noter, donc, comme je le disais, une forte progression donc, des fonds propres. Les capitaux propres s'élèvent à 146,7 millions d'euros, dont 54,5 millions d'euros pour les minoritaires. Et ceci est à comparer à 123,1 millions d'euros en 2019. Et c'est donc principalement l'augmentation de capital dans la division rail, qui est venu renforcer significativement, et une diminution aussi des fonds propres qui est liée au remboursement de la partie du capital hybride. Voilà pour cette partie bilan. Donc en synthèse, le bilan économique donc, montre des fonds propres, comme je le disais, de 147 millions d'euros, un endettement net de 190 millions d'euros et un besoin en fonds de roulement positif de 32 millions d'euros. Donc en fait, l'endettement net de 190 millions d'euros finance exclusivement des actifs tangibles de 364 millions d'euros. L'analyse de la dette, donc c'est 68% de la dette qui est sans recours. Donc nous avons une dette brute à fin 2020, donc de 252,1 millions d'euros, une dette nette de 189,8 millions d'euros et donc un cash au bilan de 62,3 millions d'euros. À fin 2020, le coût moyen de la dette s'élevait à 3,92 4%. L'échéancier de cette dette a été très largement rallongé l'année dernière. Donc, on a un échéancier très équilibré avec donc des renouvellements de nos lignes conteneurs et des renouvellements de nos lignes rail, avec maintenant une maturité plus importante qui se retrouve en 2025. Donc, vous avez tous ces chiffres qui sont publiés donc sur notre présentation. Pour information, nous avons aussi bénéficié d'un prêt garanti par l'État français pour un montant de 4,4 millions d'euros qui est toujours dans notre bilan. Les ratios bancaires, nous avons sur cette dette financière nette de 190 millions d'euros un gearing de 1,29 à fin 2020, donc qui est en très nette amélioration. Nous avons une loan to value qui s'établit à 54%, donc à un niveau très satisfaisant, et des interest coverage ratios qui sont suivis par nos banques à 4,09 qui sont aussi donc à un niveau très satisfaisant. Donc, nous respectons tous nos ratios à des niveaux donc bien améliorés par rapport au passé. L'analyse du tableau des flux de trésorerie. Ce qui est important de noter, donc c'est les flux opérationnels hors BFR d'exploitation, qui sont donc avant l'achat net de matériel et la variation de stock, et c'est donc ces flux opérationnels hors BFR d'exploitation sont en hausse et s'élèvent en 2020 à 42,4 millions d'euros contre 30,9 millions d'euros l'année dernière. Je vais maintenant commenter la partie gestion pour compte d'investisseurs, donc gestion d'actifs. Donc nous gérons 1,79 milliard d'actifs, dont une partie est en propriété, une partie est gérée pour compte de tiers. Donc nous avons 464 millions d'actifs qui sont en propriété et 615 millions d'actifs qui sont gérés pour compte de tiers. Ces actifs gérés ou propriété sont différents d'une division à l'autre. Donc par exemple, je reprends ces chiffres, nous sommes propriétaires de 312 millions de wagons et nous gérons 147 millions d'euros de wagons. Nous sommes propriétaires de 68 millions de barges et nous gérons 12 millions de barges. Nous sommes propriétaires de 76 millions de conteneurs et nous gérons 456 millions de conteneurs. Les investisseurs sont des profils variés. Nous avons des institutionnels qui sont des banques, des assurances, des fonds de pension. Nous avons aussi maintenant des fonds d'infrastructure, des family office et des sociétés corporelles. En fait, ces investisseurs cherchent une protection contre l'inflation, donc il est vraiment un sujet d'actualité. Ils cherchent des actifs qui sont tournés vers le développement durable et la baisse d'émissions de CO2. Ils cherchent des rendements récurrents et des cash flows réguliers. Et ils cherchent aussi donc des actifs tangibles avec une longue durée de vie. Et tout ça dans une logique de diversification des classes d'actifs traditionnelles. Un point intéressant aussi, donc ces investisseurs, il y a deux façons en fait aujourd'hui de gérer, d'avoir des actifs gérés par le groupe TWAX. Tout d'abord donc les comptes gérés directs, qui sont donc des montants assez significatifs par investisseur, donc ce qu'on appelle direct account ou manager accounts. Nous en avons fait pour 30 millions d'euros de syndication en 2020. Et puis, il y a aussi donc un fonds d'investissement SICAFIF luxembourgeoise qui permet de structurer ces investisseurs pour éventuellement des montants moins importants. Et donc là, nous avons donc un sous-fonds qui a été lancé en 2016, un sous-fonds euro qui a été lancé en 2016 et un sous-fonds dollar qui a été lancé en 2018 et qui permet donc d'investir dans ces actifs. L'avenir, en fait, donc les perspectives. Alors, pour la division wagon de fret, donc, comme je l'ai dit, nous avons 50 milliards d'actifs en circulation. Notre objectif, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 11 300 plateformes. Notre objectif est donc d'assez vite atteindre 15 000 wagons, dont 12 000 en Europe et 3 000 en Asie. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a eu une légère contraction de l'activité due au Covid, mais ce sont en fait des secteurs ciblés qui ont été impactés, comme le charbon, l'acier et l'automobile, et qu'aujourd'hui on constate déjà une reprise dans la plupart de ces marchés. La demande de wagons en Europe est très soutenue par la logique environnementale, donc le Green Deal européen va favoriser le transport modal vers le rail. Nous avons aussi une tendance à l'externalisation qui s'accélère, donc les utilisateurs de wagons louent plus et achètent moins, et donc la part de marché des loueurs a progressé de 20% en 2004 à 30% en 2019. Et la Commission européenne est très attachée à développer le rail puisqu'ils ont annoncé un objectif ambitieux d'atteindre 30% de part modale en 2030 contre 18% aujourd'hui. Donc en Inde, où nous opérons des wagons, là l'activité a été très soutenue, le taux d'utilisation est resté à 100%, il y a beaucoup de projets d'infrastructures donc qui sont annoncés, donc une activité qui a bien résisté. Donc pour la partie wagon, donc vraiment un objectif de remonter le taux d'utilisation, d'améliorer notre rentabilité grâce à l'amélioration continue, le Lean qui porte ses fruits, et aussi donc une augmentation de capital avec TruckRail, comme je l'ai dit, qui avec 89 millions d'euros a permis vraiment de renforcer les fonds propres de la division et nous permettre de financer notre croissance au cours des prochaines années. La partie barge fluviale, donc 15 milliards gérés en Europe et en Amérique. Donc là aussi, en fait, c'était une activité qui a été décorrélée de la crise du Covid. Donc on a eu une activité qui est restée favorable dans tout ce qui est infrastructure et transport de céréales. Donc la demande est restée soutenue. Nous sommes aussi favorisés par la communauté européenne dans les enjeux écologiques qui favorisent le transport fluvial. Et donc notre ambition est vraiment de resélectionner des actifs, notamment sur l'Europe. Nous transportons aujourd'hui donc des matériaux de construction, nous avons aussi des biomasses pour remplacer les centrales à charbon. Donc un taux d'utilisation aujourd'hui qui est à 100%, et donc la reprise des investissements avec une logique aussi de syndiquer à des nouveaux investisseurs qui sont dans une logique donc de développer les actifs environnementaux. Le conteneur maritime, donc un marché très important. La baisse du conteneur maritime a été extrêmement faible malgré le Covid, bien plus faible que prévu, puisque le trafic conteneurisé n'a baissé que de 1,1%. En fait, le e-commerce et la très forte reprise asiatique assez rapidement, la première phase de confinement, a permis en fait de très fortement atténuer cette baisse du commerce mondial. On a constaté une très bonne discipline des clients, donc qui en fait engrangent des résultats records. Et le marché, la crise du Covid a créé un ralentissement des flux logistiques et qui ont créé une pénurie. Donc en fait, nous sommes dans une logique de pénurie aujourd'hui. Le taux d'utilisation de la flotte est donc au maximum. Et donc nous avons un métier qui se présente très très bien pour les prochaines années. Nous y développons beaucoup le trading neuf qui fonctionne très bien et bien sûr le trading d'occasion dans la mesure où nous avons des actifs à vendre. Donc nous en avons moins en 2020, mais nous en avons eu moins en 2020 et 2021, mais nous aurons à nouveau des actifs à vendre à l'avenir. Donc un trading neuf et d'occasion qui sera très soutenu à l'avenir. La partie stratégie globale, en fait, donc nous poursuivons une logique chez Touax donc de faire du développement, mais aussi d'améliorer nos marges. Nous comptons sur le programme d'amélioration continue, le Lean, pour améliorer nos processus et optimiser nos marges. Nous avons aussi mis en place, par exemple, une nouvelle organisation de la gestion de la flotte dans l'activité wagon en vue d'améliorer considérablement la qualité et la satisfaction des clients. Et nous poursuivons l'optimisation de nos coûts au niveau de nos divisions et de nos frais centraux. Un petit mot sur l'activité modulaire en Afrique. Donc là, nous avons une activité qui a retrouvé le chemin de la rentabilité en 2020 et qui donc continue à bien fonctionner pour 2021. Donc là, notre stratégie est une stratégie de faire des volumes, d'augmenter les volumes et les marges. Nous centrons sur des produits clés en main à valeur ajoutée. Nous sommes actuellement dans l'exécution de contrats significatifs de salles de classe pour la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons un retour positif à l'EBITDA et à une contribution positive pour le résultat net. Donc, tout ceci nous permet de mieux valoriser notre participation en Afrique, dans laquelle le groupe TOAX a 51%. Donc, voilà pour les parties présentation des perspectives. Alors, un mot, ce sont des actifs qui sont très tournés vers l'écologie. Donc, nous avons fait en fait quelques actions dans ce sens-là. Donc, en décembre 2020, nous avons obtenu le label Green Loan pour le refinancement de nos wagons qui respectent la norme européenne écologique en émettant jusqu'à deux fois moins de CO2 que les transports traditionnels. Nous avons aussi en barge fluviale, nous sommes mis en position d'être éligibles aux primes de certificats d'économie d'énergie, notamment en France. Et dans le conteneur, nous avons eu beaucoup d'actions pour améliorer nos produits. Nous faisons aujourd'hui des produits recyclables, notamment les planchers anciennement en bois sont aujourd'hui en bambou de culture et bambou hybride. Et tout ce qui est donc la peinture est à base maintenant de composants non polluants. Et en construction modulaire en Afrique, nous sommes les seuls en fait à avoir obtenu un certificat environnemental ISO 14001, un système de management intégré QSE. Voilà pour la présentation des activités. Je vais parler maintenant sur Twax et la bourse. Nous publions depuis maintenant 2 ans, une fois par an, donc c'est la deuxième année, une net asset value, c'est-à-dire une valeur réajustée des actifs. Donc cette net asset value est calculée et présentée et détaillée par activité et donc fait ressortir une valeur donc de 274,8 millions d'euros pour le groupe, soit une valeur par action de 14,24 euros. Donc c'est à comparer aux fonds propres et ou au cours de bourse hier soir ou à ce matin, d'une décote donc qui est pour le cours de bourse en tout cas d'environ 40%. Donc ces valorisations de NAV sont faites, n'intègrent pas l'activité modulaire Afrique et n'intègrent pas notre activité gestion pour compte de tiers et n'intègrent pas nos goodwill. C'est une valeur qui est faite uniquement pour nos activités, pour nos actifs tangibles, matériels, en wagon, en barge et en conteneur. Et aussi, ça intègre aussi les commissions de gestion futures. Donc voilà pour cette partie NAV. Quelques chiffres sur la bourse. Une valeur nette comptable par action qui s'élève à 9,46 hors capitaux hybrides. Donc la NAV, donc comme je l'ai dit, l'actif net réévalué qui s'élève à 14,24. Nous avons donc 7 011 000 actions. Donc vous avez des chiffres sur la liquidité de ce cours, donc c'est élevé qui a été très 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 supérieur en 2020 puisque en moyenne 11 664 actions se sont échangées quotidiennement. Donc voilà pour cette présentation. Fabrice, je te redonne la parole.
Merci Raphaël. Alors avant de passer au vote, je vais vous présenter les différents rapports à l'Assemblée. Alors le premier rapport, c'est le rapport des gérants sur les résultats de l'activité de la société et du groupe pour l'exercice 2020, dans lequel vous avez donc toutes les informations, notamment celles que vous a présentées Raphaël. Donc c'est à la page 157. Où vous retrouverez aussi donc le rapport RSE. Le deuxième rapport, c'est le rapport des gérants à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Et le troisième rapport, c'est le rapport du Conseil de Surveillance, pages 176 à 197 du document. Un petit rappel quand même sur le rapport sur la responsabilité sociale et environnementale qui est à la page 157 à 174. Donc on insiste beaucoup sur la RSE du groupe. Pourquoi? Parce que le groupe est un groupe qui, comme vous le savez, offre des solutions de location au service des transports durables, à la fois le transport ferroviaire, le transport intermodal ou le transport fluvial, permet de réduire les émissions de CO2 pour l'ensemble de nos clients, qu'ils soient transporteurs, logisticiens ou industriels. Voilà, donc c'est très, très intéressant, vous verrez, on essaye d'accentuer sur ce point qui est un de nos vecteurs de croissance aujourd'hui. Le rapport des gérants, vous trouverez notamment qu'il y a une proposition de renouvellement d'un membre du conseil de surveillance, Marie Philippi, que nous, bien sûr, nous invitons à renouveler. et ensuite une autorisation pour effectuer un programme de rachat d'actions. Encore une fois, et comme je l'indiquais en introduction de cette assemblée, c'est uniquement dans le cadre de la gestion du contrat de liquidité que nous avons avec le groupe qui s'appelle Société Générale, leur filiale Gilbert Dupont, qui aujourd'hui permet aux actionnaires de fluidifier les échanges. Dans le rapport des gérants à l'Assemblée générale extraordinaire, donc là vous le retrouvez page 174 à 175, donc l'Assemblée générale extraordinaire, il y a simplement deux sujets, un premier sujet totalement technique, c'est la modification de l'article 11.5 sur la rémunération de la gérance dans les statuts. C'est un point technique qui clarifie que les primes d'éloignement s'appliquent lors des déplacements hors du lieu de résidence. Le deuxième point est une autorisation qui est en ligne avec celle qui était pour faciliter donc le contrat de liquidité, le rachat d'actions. En cas de rachat d'actions, nous donnons aussi l'autorisation ici de réduire le capital par annulation des dites actions acquises. Voilà, donc c'est un renouvellement de la précédente autorisation qui avait été donnée. Et elle serait valable pour 18 mois. Voilà, sur le conseil, le rapport du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance a réalisé donc tous ses contrôles au sein de à la fois des comités des comptes ou au niveau des comités, enfin des conseils de surveillance. Beaucoup d'informations, vous verrez, et notamment, sachez qu'il y avait une indication sur le levier, un groupe de financement comme le nôtre, bien sûr, utilise le levier bancaire hein, pour augmenter sa profitabilité. Le Conseil donc a confirmé sa recommandation de ne pas dépasser un niveau de 5, un levier de 5. Sachez que nous sommes inférieurs à 5 donc en 2020 sur les comptes présentés par Raphaël. Le levier hors dette hybride étant à 4,28 et avec dette hybride inférieur à 5. Vous avez un autre rapport du conseil de surveillance qui se réfère aux règles de gouvernance. Donc sachez que le groupe s'est engagé à respecter le code de gouvernance des entreprises Middle Next, voilà, pour les valeurs moyennes dans sa dernière version de septembre 2016. Vous trouverez aussi donc différents rapports sur les rémunérations des mandataires sociaux. Alors dans le cas de Twax, pour notamment les gérants ou les commandités, sachez que c'est statutaire, donc c'est extrêmement transparent, puisque quand vous achetez l'action, ben, vous pouvez accéder bien sûr, vérifier les statuts, c'est statutaire et tout changement est soumis à l'approbation des actionnaires. Voilà, on peut maintenant procéder à la lecture des rapports des commissaires aux comptes. Vous pouvez trouver donc ces rapports aussi donc dans le document qui est en ligne sur notre site internet. Nous vous confirmons que les commissaires aux comptes ont effectué toutes leurs diligences et ont accepté les comptes sociaux et consolidés 2020 sans réserve. Vous avez aussi un rapport sur les conventions réglementées. En fait, il y a une convention qui est la sous-location des locaux d'un de nos bureaux. Là, ce sont les locaux à la Défense sur lesquels il y a eu des expertises indépendantes donc pour valider les loyers. Voilà. Et puis un rapport sur les opérations de capital, réduction de capital sur lequel il n'y a aucune observation. Voilà, donc là vous trouvez sur le document les différents rapports. Je vous propose maintenant de passer au vote des résolutions. Donc encore une fois, le quorum est atteint, 42,44%. Et nous avons à chaque fois donc reçu, comme indiqué, les votes de nos actionnaires avant l'Assemblée. Alors, première résolution. Comptes sociaux de l'exercice 2020. Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, faisant apparaître un bénéfice net comptable de 7 669 080 euros. Nous vous confirmons que cette résolution a été adoptée. Deuxième résolution. compte consolidé de l'exercice 2020. Cette résolution a pour objet de faire approuver par l'Assemblée les comptes consolidés de l'exercice 2020 faisant apparaître un résultat net part du groupe de 5 862 163 euros. La présente résolution a aussi été adoptée à l'unanimité. Troisième résolution. Quitus aux différents membres de direction et de surveillance. Cette résolution a pour objet de donner quitus pour l'exécution de leur mandat au conseil de gérance, conseil de surveillance, commissaire aux comptes. La présente résolution a été adoptée à l'unanimité. Quatrième résolution, affectation du résultat. Cette résolution a pour objet de procéder à l'affectation du résultat comme suit. Bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2020, 7 669 080 euros. Affectation de la totalité du bénéfice au report à nouveau pour le même montant. Rémunération statutaire des commandités prélevées sur la prime d'émission, 640 075 euros. La présente résolution a aussi été adoptée. Cinquième résolution, approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L226-10 du Code de commerce. Cette résolution a pour objet de faire approuver par l'Assemblée la conclusion et la poursuite des conventions et engagements réglementés mentionnés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. Cette résolution a été adoptée à la majorité. Sixième résolution. Approbation de la politique de rémunération applicable aux gérants présentée dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Conformément à l'article 11.5 des statuts de la société, la rémunération annuelle attribuée à chaque gérant dans le cadre du régime général de la sécurité sociale est fixée comme suit. Une partie fixe brute égale à la somme de 129 354 euros, complétée par les bénéfices d'avantages en nature dans la limite de 15% de la rémunération fixe, étant précisé que ne s'imputent pas sur ce montant les rémunérations et remboursements de frais perçus par les gérants au titre des mandats sociaux et fonctions exercées dans toute filiale de la société, dans la limite de 80 000 euros par gérant. D'une somme brute de 850 euros chaque jour de déplacement professionnel à titre de prime d'éloignement familial, ces montants ne pourront être librement réévalués par les associés commandités que dans la limite de l'évolution cumulée de l'indice d'inflation annuelle de l'INSEE. Une partie variable égale au maximum à 0,5% de l'EBITDA consolidé du groupe TWAX, diminué des revenus locatifs dus aux investisseurs. Pour les raisons de ce calcul, il est précisé que l'EBITDA est l'excédent brut d'exploitation consolidé diminué de la dotation nette aux provisions d'exploitation. La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix. Septième résolution, approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance présentée dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Les membres du Conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération annuelle déterminée par l'Assemblée générale s'élevant à 63 000 euros. La répartition de l'enveloppe globale accordée par l'Assemblée générale est divisée en une partie fixe pour moitié et une partie variable pour l'autre moitié. La partie variable est répartie entre ses membres en fonction de leur assiduité aux séances du Conseil. Cette rémunération est double pour le président du Conseil de surveillance pour la part fixe et variable. Sur cette enveloppe globale sont aussi rétribués le ou les membres indépendants du comité d'audit en fonction de leur assiduité aux réunions du comité d'audit. La présente résolution est adoptée à l'unanimité. Huitième résolution, approbation de l'ensemble des rémunérations des mandataires sociaux. Cette résolution a pour objet d'approuver la politique de rémunération applicable à l'ensemble des rémunérations des mandataires sociaux présentées dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. La présente résolution est adoptée à l'unanimité. Neuvième résolution. Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Alexandre Kolonavalevski en qualité de président du conseil de surveillance. Vous avez ici les montants. Rémunération, jeton de présence, ex-jeton de présence, 17 142 euros. Remboursement de frais de déplacement, 192 700 dollars. La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. Dixième résolution, approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Fabrice Kolonna-Walewski en qualité de gérant. Vous avez ici un tableau qui reprend l'ensemble des rémunérations, en partie fixe 421 000 euros, variable au titre de 2020, 80 000 euros. Variable payé au titre de 2019, 81 000 euros. Total payé en 2020, 583 000 euros. Dont payé par Twax SCA, la maison mère, 26 000 euros. Et payé par les filiales du groupe, 556 000 euros. La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. Onzième résolution. Approbation de la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribuée au titre du même exercice à M. Raphaël Kolonna-Walewski en qualité de gérant. Donc vous avez aussi un tableau qui reprend le détail. Fixe 398 000 euros. Variable payé au titre de 2020, 57 000 euros. Variable payé au titre de 2019, 149 000 euros. Total payé en 2020, 605 000 euros. Dons payés par Twax SCA, 27 700 euros. Dons payés par les autres sociétés du groupe, les filiales, 577 000 euros. La présente résolution est adoptée à l'unanimité. Douzième résolution, fixation de la rémunération annuelle à allouer au conseil de surveillance. Cette résolution a pour objet de fixer à 63 000 euros le montant global de la rémunération annuelle à allouer au conseil de surveillance. Cette résolution est adoptée aussi à l'unanimité des voix exprimées. Treizième résolution, renouvellement du mandat de Madame Marie Philippi en qualité de membre du Conseil de surveillance. Cette résolution a pour objet de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie Philippi pour une durée de 3 ans. Donc nous vous rappelons qu'elle est membre indépendante, membre du Conseil de surveillance depuis 2016, avec une expérience internationale et financière, et actuellement directrice générale de Piazza. La présente résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. Quatorzième résolution, renouvellement de l'autorisation du programme de rachat d'actions dans le cadre du dispositif de l'article L221062 du Code de commerce. Cette résolution a pour objet de renouveler l'autorisation donnée par l'Assemblée du 24 juin 2020 au Conseil de gérance d'acquérir les actions de la société. Donc, cette autorisation est donnée pour un prix maximum d'achat de l'action à 30 euros, le plafond de détention, autodétention par la société est de 10% du capital, l'usage est pour animer le marché et la durée de validité 18 mois. Cette présente résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. Quinzième résolution, modification de l'article 11.5 des statuts de la société. Cette résolution a pour objet de modifier l'article 11.15 des statuts de la société afin de conditionner le paiement de la prime d'éloignement familial à un déplacement professionnel hors du pays de résidence des gérants. La présente résolution est adoptée à la majorité. Majorité des 2/3, puisque là maintenant nous sommes passés dans l'Assemblée extraordinaire. 16e résolution. Autorisation d'annulation de tout ou partie des actions achetées par la société. Cette résolution a pour objet d'autoriser le conseil de gérance de réduire le capital par annulation d'actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions. Donc le montant est un maximum de 10% du capital avec une durée de validité de 18 mois à compter de la présente assemblée. La présente résolution est adoptée à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Et enfin, la dernière résolution, 17e résolution, pouvoir pour formalité. Cette résolution a pour objet de permettre d'accomplir les formalités légales consécutives aux décisions de l'Assemblée. Cette résolution est aussi adoptée à l'unanimité des voix exprimées. Voilà, écoutez, un grand merci d'avoir participé soit en direct, soit en différé à cette Assemblée générale de TWAX pour l'exercice 2020. Et nous aurons le plaisir, j'en fais le vœu, de vous retrouver physiquement voilà, pour la prochaine Assemblée. Et n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, en tant qu'actionnaire, de nous poser toutes vos questions aussi en direct, par email, soit par notre site internet ou directement. Voilà, merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, l'Assemblée générale du groupe TWAX est désormais terminée. Nous vous remercions de votre audience. Vous pouvez maintenant vous déconnecter.